santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi, bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez mieux que moi, qui est encore un peu enrhumée. Vous l'entendrez, j'imagine, par ma voix. C'est Marianne Paquette. Vous me reconnaissez, j'espère, tout de même, malgré ce petit chat dans la gorge. C'est l'émission C'est bon pour la santé pour les 30 prochaines minutes. Aujourd'hui, on poursuit cette série d'entrevues sur la santé des hommes en ce mois de novembre avec un témoignage de Patrice Lavoie, lui qui est directeur des communications et des relations de presse à l'Auto-Québec, mais également ambassadeur de Movember et qui, l'an dernier, a vécu des épisodes de troubles anxieux et il avait envie de lancer un message positif en dévoilant publiquement son histoire, une façon pour lui de dire aux hommes de ne pas hésiter à demander de l'aide quand les choses tournent mal. Lui, il a tardé à demander de l'aide et il va nous parler de ça. Je vous rappelle qu'un Canadien sur cinq, un Canadien homme, là, en fait, là, sur cinq vit un problème de santé mentale chaque année et souvent seul, en solitaire. Je pense que c'est pas banal et on pourra en apprendre davantage tout à l'heure avec M. Lavoie. Et puis d'abord, je vous pose cette question. Comment on favorise la santé des populations marginalisées? Bien, d'abord, il faudrait peut-être répondre à cette question. C'est qui, ça, les populations marginalisées? Moi, d'entrée de jeu, je pense à des personnes itinérantes, des travailleuses du sexe, qui évoluent peut-être dans la rue, et des jeunes en quête de repères. Des clientèles qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à rejoindre parce qu'en marge des médias traditionnels, je parle ici du web, des journaux, de la télévision, donc loin des campagnes de prévention en matière de santé publique, également des clientèles qui refusent parfois des soins de santé plus conventionnels. Une façon de lutter contre cette exclusion-là et de mieux prendre soin de cette clientèle, de ces personnes-là, c'est d'offrir des services de proximité, de créer des liens étroits et aussi des liens de confiance. C'est ce que fait l'autobus L'Anonyme qui sillonne les rues de Montréal. Et on va en apprendre davantage aujourd'hui avec Kim Brière-Charret, elle qui est intervenante psychosociale à l'unité d'intervention mobile L'Anonyme. Bonjour Kim.
Bonjour.
Merci d'être là malgré votre rhume.
C'est un plaisir, on est en duo aujourd'hui.
On est en duo, donc merci de m'appuyer dans tout ça. Aujourd'hui, population marginalisée, leur santé, on s'y intéresse. En même temps, on le sait, là, on ne pourra pas en 15 minutes aborder tout ça. C'est un sujet vaste, un sujet important également. Vous, vous côtoyez ces personnes-là, Kim, et vous leur donnez des soins, de l'information. C'est quoi les services de l'Anonyme?
En fait, je suis chargée de projet et intervenante à l'Anonyme, comme d'ailleurs plusieurs de mes collègues. L'Anonyme, on fait de la prévention des ITSS, donc des infections transmissibles sexuellement ou par le sang, en allant vers les gens, donc toujours en travail de proximité. Tout un volet de promouvoir les relations saines et égalitaires. Alors, évidemment, il y a une série d'ateliers éducatifs qui sont donnés à travers les milieux communautaires, les milieux scolaires. Donc, il y a plusieurs de mes collègues, entre autres, qui animent les projets Orbite et Sexe Égalité, qui sont des projets d'éducation à la sexualité. De mon côté, je suis sur l'animation des ateliers radio avec des jeunes. Donc, on parle beaucoup de jeunes aussi qui ont des parcours peut-être plus marginaux à l'occasion. Et puis, via l'autobus, quand même sillonne plus d'une douzaine de quartiers à Montréal. Donc, on va dans des quartiers centraux comme Centre-Ville, Centre-Sud, Hochelaga-Maisonneuve, où il y a beaucoup de réalités liées, entre autres, à la consommation, le travail du sexe, comme tu mentionnais tout à l'heure également, et puis, l'itinérance ou du moins la vie dans la rue. Et puis, dans les quartiers plus périphériques, par exemple, si je pense à Saint-Michel ou dans l'Est, donc dans Mercier, Rivière-des-Prairies, on est vraiment dans des quartiers où on va rejoindre des personnes qui sont souvent plus en retrait des ressources parce qu'il y a beaucoup moins de ressources dans justement les quartiers plus périphériques à Montréal.
Donc, si je comprends bien, trois volets à l'Anonyme: l'autobus, les ateliers et Radio Anonyme.
Exactement. Radio Anonyme fait partie des ateliers, mais oui, on pourrait dire qu'on est assez diversifié là, à l'organisme.
Une façon d'aller joindre toutes ces populations. C'est qui votre clientèle cible?
En fait, on parle beaucoup via, par exemple, l'autobus. On parle beaucoup des personnes de 14 ans et plus. C'est assez large. Là, on rencontre des adultes, on rencontre des plus jeunes. Souvent, sur les quarts de soir, évidemment, on va être plus dans l'éducation sexuelle. Là, quand on parle des quartiers périphériques, justement, on va distribuer donc du matériel de prévention, du matériel sain, sécuritaire. Alors, on distribue, entre autres, des condoms le soir, le plus souvent auprès des jeunes, comme je disais tout à l'heure. Et puis, sinon, auprès des populations adultes qu'on voit plus la nuit, on va y aller. Souvent, c'est plus de la prévention de la toxicomanie. Il y a aussi de l'éducation, évidemment, du sécurisexe. Donc, on a des condoms, mais on distribue aussi, un peu comme d'autres organismes à Montréal, là, si je pense à Cactus, par exemple, de l'échange de matériel, comme des seringues ou quoi que ce soit.
Mm-hmm. Je reviens à ce qui a été dit un petit peu plus tôt, Kim. Est-ce que de parler de relations saines, égalitaires, entre hommes, entre femmes, est une façon de contrer les ITSS?
En fait, certainement, parce que ce qu'il faut comprendre à travers tout ça, c'est que on dit souvent qu'on n'est pas un organisme où on fait de la distribution de matériel. Au contraire, c'est un levier pour nous pour faire de l'intervention psychosociale. Donc, quand on est en contexte d'intervention, c'est certain que ce qui est central pour nous, ce n'est pas le matériel comme tel qu'ils vont utiliser, mais vraiment les comportements sécuritaires qui vont entourer justement les pratiques. Et quand on parle d'ITSS, c'est central là, de vérifier à ce que les personnes puissent justement avoir les bons outils, les bonnes connaissances pour pouvoir ensuite prendre des choix qui sont éclairés dans leur vie.
OK. Et suite aux discussions que vous avez avec ces jeunes-là, ou moins jeunes, en tout cas, du moins les gens que vous rencontrez à travers l'anonyme, est-ce que les gens ont en main de la bonne information? On a l'impression qu'en 2015, l'information circule énormément. Tout le monde a un ordinateur, le web, un téléphone intelligent, mais en même temps, on le sait, les ITS. Les ITSS, oui, il y en a de plus en plus. Donc, on peut se poser la question, l'information est là, est-elle bonne, premièrement?
En fait, c'est très intéressant comme question parce qu'effectivement, le web ouvre à une énorme quantité d'informations. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut se dire aussi qu'on est dans un contexte où il n'y a pas d'éducation sexuelle. Il y a un nouveau projet pilote qui a été implanté en septembre, mais on parle de cours obligatoires seulement possiblement à partir de 2017. Donc, si ça suit son cours tel que supposé. Par contre, on voit qu'en ce moment, beaucoup d'initiatives au niveau de l'éducation sexuelle, comme à l'anonyme, se font via le filet communautaire. Alors, c'est des écoles qui contactent, par exemple, toute l'équipe, nous demande si on peut aller se déplacer dans les milieux, animer des ateliers d'éducation sexuelle, parce que la réalité, c'est que les ressources qui sont en place, souvent, se sentent dépassées aussi par le contenu qu'ils doivent amener.
Oui. Est-ce que les intervenants avec qui vous travaillez ou peut-être ceux à qui vous référez, les gens que vous rencontrez, sont habilités à rencontrer ces clientèles-là?
En fait, les intervenants qu'on rencontre beaucoup dans les milieux, souvent, c'est plus au niveau des partenaires. Si je pense à l'autobus, dans les milieux scolaires, bon, ça va être les professeurs qui, parfois, effectivement, sont déjà surchargés, manque de ressources. Donc, avoir des interventions individuelles avec tous leurs élèves, je pense que ça dépasse aussi les moyens dont ils disposent. Par contre, dans le milieu, il y a énormément de personnel qualifié. Je pense que là où il y a un plus grand défi, c'est au niveau, évidemment, du financement et du soutien qu'on a, parce que malheureusement, les politiques d'austérité ont un impact assez important en ce moment sur tout le filet communautaire.
Mais je pense, par exemple, si vous dites à une jeune fille, bon, peut-être que tu as une ITSS, bon, tu es inquiète, va voir un gynécologue. Est-ce que le gynécologue en question, le médecin, il est prêt à recevoir cette jeune fille-là qui vit peut-être dans la rue, qui est peut-être une travailleuse du sexe, et prêt à lui offrir les ressources nécessaires puis à l'accueillir dans sa différence? Et bon, on le dit, hein, marginale, une personne marginale qui est peut-être en marge de la société, là.
En fait, souvent, on travaille justement en collaboration avec des cliniques qui sont spécialisées dans le domaine ou avec des populations spécifiques ou marginalisées. Pourquoi? Parce que justement, dans des grandes cliniques ou des milieux qui sont moins sensibilisés aux populations marginalisées, malheureusement, il y a encore de la discrimination ou de la stigmatisation qui se fait auprès de ces personnes-là. Et ça fait en sorte que la plupart des populations marginalisées se trouvent à être vraiment en retrait du réseau de la santé et des services sociaux. Donc ça, c'est un enjeu vraiment systémique, là, si on veut, structurel, qui pour nous est majeur parce que ce qu'on essaie de faire régulièrement là, via les intervenantes qui travaillent entre autres dans l'autobus, c'est de recréer ce pont-là pour pouvoir justement que ces personnes-là aille vers le réseau de la santé. Parce que malheureusement, il y a encore des situations où on se retrouve au dépourvu, où on souhaiterait, dans des situations très urgentes, envoyer la personne en ambulance, mais que la personne ne veut pas aller à l'hôpital.
Oui, peut-être que la carte soleil est même pas là. Peut-être également que des préjugés. Je parlais tout à l'heure du lien de confiance. Il est peut-être pas établi avec le médecin, l'inconnu. Donc, tout ça, c'est à refaire, ces ponts-là. Est-ce que les intervenants en santé travaillent peut-être un peu trop en silo?
C'est certain qu'en ce moment, je crois que déjà le contexte de la restructuration du système de santé a un impact. Ça fait parfois aussi en sorte que, déjà avec la surcharge du travail, je crois que les collaborations sont difficiles à établir ou à maintenir. Ceci dit, il y a des superbes collaborations qui se font avec le communautaire, mais ce sont vraiment des rares collaborations, ou du moins des collaborations qui sont là depuis un certain temps, mais qui peuvent être difficiles à implanter. Par exemple, je pense à un nouveau trajet qu'on vient juste d'implanter dans Mercier-Est. Il y a des démarches qui se font au niveau du CIUS, donc Est de Montréal, pour en ce moment avoir une infirmière de proximité à bord du motorisé, parce qu'on se jumelle souvent avec justement des infirmières des C3S qui, elles, vont faire des dépistages à bord de l'autobus. Donc, c'est une façon, là, entre autres, de rejoindre les populations marginalisées. Par contre, la réalité, c'est que, encore là, c'est ça, c'est des questions beaucoup de bureaucratie, de démarches politique au sein des dirigeants. Donc, évidemment, je pense que dans la plupart des cas, il y a des beaux développements. On voit en ce moment qu'on a des jumelages à Saint-Michel, aussi dans Hochelaga-Maisonneuve, mais n'empêche que ça demande quand même beaucoup, beaucoup de démarches de collaboration de la part de la direction.
J'entends qu'il y a beaucoup de possibilités lorsque les équipes sont multidisciplinaires. Est-ce que c'est une force, ça, d'inclure des spécialistes de la santé qui viennent d'un petit peu partout, là?
Très certainement, parce que on croit beaucoup à l'anonyme, en fait, que chaque professionnel a aussi ses compétences. On est beaucoup de sexologues ou bachelières en sexologie à l'anonyme. Il y a également beaucoup de personnes qui sont issues du travail social. Donc, c'est ce jumelage-là aussi qui fait qu'on a une combinaison des forces chacune dans nos professions. Évidemment, dans le milieu, de la même façon que nous, on ne s'improvisera pas médecin ou infirmière. Mm-hmm. Je pense que c'est une plus-value d'avoir le côté intervention psychosociale aussi, mais c'est important effectivement de travailler en concertation et en concertation entre les différents professionnels, mais entre les différents paliers aussi. Donc, quand on parlait de milieu institutionnel, communautaire, d'éducation, on parle d'une belle convergence là, entre ces milieux-là.
Oui. On parlait tout à l'heure, Kim, ensemble, des différents enjeux liés à la santé pour ces populations dites marginalisées. Alcool, toxicomanie, on parlait de sexe sécuritaire également. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux? Je pense, par exemple, à la violence conjugale. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez régulièrement?
La violence conjugale, oui, on reçoit des témoignages quand même à chaque année de personnes qui nous dévoilent parfois des situations de violence conjugale, de violence aussi plus sexuelle, donc dans la rue. Évidemment, il y a un projet de prévention de l'exploitation sexuelle, donc ça amène aussi par le biais des ateliers parfois des dévoilements de la part de jeunes, mais c'est certain que en ce moment, on mise beaucoup justement sur la prévention pour éviter ces situations-là, puis travailler en amont. Et là où on coupe en ce moment dans les services, c'est beaucoup à ce niveau-là, entre autres, au niveau de la prévention. Donc, ça a forcément un impact sur les réalités qui sont vécues ensuite. Mm-hmm. Mais oui, ça fait partie des réalités qu'on voit.
Si quelqu'un se présente chez vous avec une problématique de santé mentale, c'est pas nécessairement votre mission, si j'entends bien, Kim Brière-Charest, vous le retournez pas de bord, là.
Ben, en fait, souvent, c'est certain qu'à la longue, quand la personne revient plusieurs fois, on va recentrer vers nos services. Mais non, c'est certain qu'on ne va pas lui fermer la porte au visage. Ça va de soi. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont des problèmes de santé mentale et qui ont aussi des réalités ou des enjeux qui sont connexes à ces réalités-là. Donc, je pense par exemple à des personnes en situation de toxicomanie qui peuvent aussi avoir des troubles de bipolarité, schizophrénie, etc. C'est régulier là, qu'on voit ça. Donc, souvent, l'un peut amener d'autres besoins, comme on dit.
Je lisais également dans mes notes que l'anonyme a une sensibilité dans la prévention pour les gangs de rue, c'est-à-dire de sensibiliser les jeunes filles à peut-être s'éloigner de ces réseaux-là. Vous fonctionnez comment pour ces interventions? question-là, Kim?
En fait, c'est justement via les ateliers Orbit et malheureusement, ça fait partie des enveloppes sur l'exploitation sexuelle qui viennent d'être abolies. Enfin, on a reçu l'annonce, je crois, la semaine dernière. Malheureusement, c'est en ce moment deux postes de sexologue ou l'équivalent d'eux là, qui sont financés à l'anonyme qui vont être abolis. C'est un projet où on a rencontré seulement en un an 4 500 jeunes à travers les écoles de Montréal principalement et les milieux communautaires. Alors, c'est certain que des situations comme ça, ça nous dresse le poil sur les bras, comme on dit, parce que comme il n'y a pas de cours d'éducation sexuelle non plus, qui va rejoindre ces jeunes-là? Qui va faire la sensibilisation au niveau de la prévention de l'exploitation sexuelle? On ne parle pas, je veux dire, pour moi, c'est un besoin qui est absolument prioritaire. Évidemment, on parle de filles, effectivement, on parle de gars aussi. L'idée est de prévenir par la sensibilisation, par les connaissances aussi. On dit qui connaît mieux souvent et mieux outillé pour faire des choix éclairés et responsables dans leur vie.
C'est l'information,
Voilà, ça circule. De la même façon qu'on donnait des ateliers en centre jeunesse aussi, je pense que c'est nécessaire, même pour les jeunes contrevenants, pour les filles qui pourraient être victimes ou les hommes qui pourraient être victimes aussi d'exploitation sexuelle, d'être au clair avec ce que c'est l'exploitation sexuelle. Parce que sans connaître vraiment tout le processus de l'exploitation, c'est difficile de l'identifier clairement.
Mm-hmm. On a parlé beaucoup des problèmes, on a souligné ça, mais est-ce qu'il y a des réussites parce que vous avez les yeux rivés sur ces gens-là, vous les voyez évoluer? Est-ce que parfois, il y en a qui reviennent et qui disent « OK, je me suis pris en main, mon problème de toxicomanie, je l'ai pris en main, je consulte. » Est-ce que vous en voyez de belles histoires comme ça, Kim?
On en voit, c'est certain que c'est du cas par cas, mais oui, certainement, on en voit. Je pense que c'est toujours des histoires aussi qui font notre soirée, comme on aime bien dire. Parfois, c'est des personnes qui tout simplement viennent, par exemple, nous faire un petit don de 10$ puis nous disent « Écoutez, moi, j'étais dans la rue il y a 15 ou 20 ans, puis je vous connaissais à cette époque-là, donc l'équipe a complètement changé, mais quand même, ils viennent juste nous... » C'est beaucoup pour nous, nous dire justement à quel point le travail qu'on fait, je parle de l'anonyme, mais même de tout le milieu communautaire, est absolument essentiel en ce moment dans les services.
Essentiel, mais parfois oublié. On s'en rend compte là, avec cet exemple de l'enveloppe disparue pour cette sensibilisation là, à l'exploitation sexuelle. Bien, on espère que ce soit entendu quelque part, ce message. En terminant, Kim, si on veut rencontrer l'autobus, l'anonyme, on peut se promener dans quel quartier? On a parlé tout à l'heure de quartiers périphériques, entre autres choses, d'Oma aussi. Mais moi, je sais que je vous ai déjà vu stationner tout près du parc La Fontaine. Est-ce que vous continuez vos services tout au long de l'hiver?
En fait, on poursuit les services à l'année longue, à l'exception du temps des fêtes où on a une petite fermeture, mais à peine. Donc, effectivement, on est dans la plupart des quartiers, Hochelaga-Maisonneuve, Centre-Sud, Centre-Ville, comme je disais tout à l'heure, Mercier-Est, Mercier-Ouest, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles même récemment. Puis on est aussi dans Saint-Michel, dans NDG, Côte-des-Neiges. Donc vous allez probablement nous voir et nous croiser à Montréal. N'hésitez pas à rentrer puis nous saluer.
On le souhaite et en plus, on peut vous entendre avec Radio Anonyme. C'est diffusé ce soir, 18h. C'est quoi un petit peu le concept de l'émission?
En fait, Radio Anonyme, c'est vraiment une émission qui a pour but l'inclusion sociale des jeunes. Donc c'est animé par des jeunes et produit, chapeauté par l'Anonyme à ses BL 105 Montréal. D'ailleurs, on vous invite à écouter l'émission, mais vraiment, c'est une belle façon de justement pouvoir entendre ces populations-là et la jeunesse d'aujourd'hui en 2015. Oui.
Et en plus, on peut vous entendre le samedi 14h pour cette émission Le sexe a ses raisons avec Edith Fanny Morin. Kim Rière-Charest, c'était un plaisir de vous recevoir. Bien, on se connaissait là, grâce à CIBL, mais de vous avoir ici en studio. Je rappelle, vous êtes intervenante psychosociale à l'unité d'intervention mobile L'Anonyme. On laisse le site anonyme.ca. Ça sera sur le nôtre. Merci, Kim.
Merci à vous.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bonjour Patrice Lavoie.
Bonjour, comment allez-vous?
Je vais très bien, vous-même?
Très bien, merci. Content d'être là.
Ben oui, ben nous sommes contents de vous parler. Je le rappelle, vous êtes directeur des communications et des relations de presse à l'Auto-Québec, également ambassadeur de Movember depuis 4 ans. Et ben là, pour nous faire un témoignage, Patrice Lavoie, parce que l'an passé, vous êtes tombé dans le panneau du stéréotype masculin, c'est vous-même qui le dites ainsi, du super-héros, hein, cette espèce de cliché que l'on a de l'homme. Et vous avez vécu un épisode de troubles anxieux sans en parler à personne. Pourquoi aujourd'hui vous décidez d'en parler? Ça a été quoi le déclencheur?
Bien, en fait, je vous dirais que c'est tout simple. Je me suis dit cette année, bon, vous l'avez dit, ma 4e participation en Movember. Et un peu avant le début du mois, je me suis dit, si un gars comme moi, qui est sensibilisé à la cause, qui participe en Movember chaque année, je peux tomber dans le panneau. J'ose croire que je suis de la nouvelle génération d'hommes qui sont un petit peu plus près de leurs émotions. On sait qu'on peut demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse et de force, mais quand mm-hmm. ça t'arrive à toi, c'est pas la même chose. Et je me suis dit, si quelqu'un qui se croit sensibilisé autant que moi peut vivre ce genre d'épisode, c'est clair qu'il y a d'autres personnes dans la même situation. Donc, oui. Si je peux aider une seule personne avec mon message cette année, en dévoilant publiquement justement les troubles anxieux que j'ai vécu, ben au moins ça sera mission accomplie. Et je vous dirais que la réception est au-delà de mes attentes. Je reçois des messages sur ma page Facebook, des emails également, où les gens me disent « Merci beaucoup, j'ai écouté une de tes entrevues, puis je merci beaucoup de ton message, ça me parle beaucoup. » Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, j'ai quelqu'un qui m'a écrit là, sur mon compte LinkedIn pour me dire « En t'entendant l'entrevue, j'ai décidé moi-même mm-hmm. d'aller demander de l'aide. » Donc, pour moi, c'est la meilleure des récompenses.
Vous, dans votre cas, Patrice Lavoie, ça a été quand le moment où vous vous êtes dit « OK, là, faut que j'aille chercher de l'aide, ça va plus. »
Bien, en fait, je vous dirais, les troubles anxieux, c'est un trouble un peu sournois. Souvent, on pense que c'est du stress, de la fatigue, mm-hmm. ça commence petit à petit, et là, ça dégénère, ça va de moins en moins bien, mais là, bon, j'ai eu le réflexe de me dire, coudon, on en a vu d'autres, je suis fait fort, je vais être capable de passer au travers tout seul. Donc, on se met un petit peu de pression, justement, pour faire en sorte d'être celui qui va retrousser ses manches et qui va s'en sortir seul. Après quelques mois, là, je me suis rendu compte que bon, là, ça fonctionnait plus. Là, je me sentais de moins en moins bien. Ça faisait déjà au moins 6 ou 7 mois que je me réveillais chaque matin avec une boule là, d'anxiété très, très forte. Puis ça commençait vraiment à miner là, mon quotidien. Je me sentais beaucoup moins concentré, le travail, etc., etc. Donc, c'est là qu'à un moment donné, un beau jour, je me suis levé et je me suis dit, faut que j'aille demander de l'aide. Donc, je suis allé voir mon médecin, j'ai consulté un psychologue et tout ça, puis finalement ça a porté ses fruits là. Je me suis senti mieux rapidement, mais il faut le faire, c'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est un signe de force. C'était l'essentiel du message là, que je lançais là, cette année.
Mais aller chercher de l'aide et en demander, je dirais même, Patrice Lavoie, que c'est un acte assez courageux.
Bien, tout à fait. C'est clair que, comme vous l'avez dit, même si on n'est plus dans la génération de nos parents, puis les chercheurs de ce qui se penchent sur le nouveau rôle de la masculinité, pourront vous le dire mieux que moi, même si on n'est plus, on est rendu ailleurs, ça reste quand même que dans la société d'aujourd'hui, l'homme se doit d'être un bon père, un bon travailleur, d'avoir du succès au travail, d'avoir un entourage, un bon entourage, que la vie de famille aille bien, que les amours aillent bien. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de pression. Et c'est quand même moins accepté là, de dire, c'est ça, de le faire publiquement de un, mais même de le faire envers soi-même. Là. On dirait mm-hmm. qu'on est conditionné dès le plus jeune âge à faut pas pleurer, faut pas montrer nos émotions. Puis d'ailleurs, Movember travaille avec un partenaire, Jeunesse J'écoute, qui est un organisme bien connu. Et on nous disait, c'est quelque chose dont j'étais pas au courant, mais il semble que avant 14 ans, les gens téléphonent, les jeunes. Jeune homme, jeune fille, téléphone à la ligne pour demander de l'aide ou pour demander des conseils. Et entre 14 et 18 ans, le nombre de garçons qui téléphonent chute vraiment drastiquement. Donc, ça signifie que c'est vraiment ancré depuis longtemps, depuis le jeune âge, là, chez les petits garçons. Bon, c'est difficile. C'est difficile de faire le pas pour demander de l'aide. Et c'est encore un petit peu perçu là, comme un signe de faiblesse, alors que c'est pas du tout le cas. Là.
Et d'ailleurs, Patrice Lavoie, la semaine prochaine, je vais recevoir des gens de Jeunesse J'écoute qui ont mis de l'avant un projet qui s'appelle Le Coin des gars pour justement aller rejoindre cette clientèle un petit peu plus difficile à joindre, les 14-18 ans. Vos proches, Patrice, ils ont réagi comment lorsque vous avez dit, ben voilà, je vis un épisode de troubles anxieux et j'ai besoin d'aide?
En fait, c'est sûr que les gens ont été, je vous dirais, assez surpris parce que c'est ça, c'est le propre de quelqu'un qui ne veut pas demander de l'aide, de démontrer que tout va bien et d'être tout sourire. Et les gens, même encore une fois, quand je l'ai dévoilé publiquement là, dans le cadre de la campagne, j'ai reçu des messages de gens qui me connaissent et on me dit je m'en serais jamais douté. C'est ça le principe. Souvent, ça paraît pas. On démontre qu'on est fait fort. On sourit même quand ça va pas. Les gens nous demandent est-ce que ça va bien. On répond bien sûr. Et quand, comme je vous dis, si c'est ancré depuis longtemps dans l'enfance, cette volonté de jouer un peu au super-héros, si on peut le dire ainsi, on développe inconsciemment toutes sortes de mécanismes pour vraiment le cacher. Donc, je vous dirais que mes proches ne s'en doutaient aucunement. J'ai toujours l'air de la personne que pour qui tout va bien,
en contrôle.
Pour qui tout réussit, en contrôle, effectivement. Donc, les gens ont été assez surpris. Mais comme je vous le disais, là, j'ai eu beaucoup de témoignages positifs où les gens m'ont remercié là, de mon message. Puis Movember, c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Oui, à la santé mentale, mais j'y participe depuis 4 ans, justement, en raison de tout ce qu'ils font aussi pour lutter contre le cancer de la prostate, le cancer testiculaire, la promotion de l'activité physique aussi chez l'homme. Parce que la santé, oui, c'est la santé mentale, mais c'est la santé physique aussi, c'est un tout. Et on le sait, les hommes décèdent en général, là, les statistiques le démontrent, 5 ans plutôt que les femmes. Donc, est-ce qu'on peut essayer collectivement, les hommes, d'être de vivre heureux et le plus longtemps possible et en santé? Je pense que c'est une question de société qu'il faut se poser et la cause est toujours aussi importante. Je vous dirais que dans d'autres entrevues, on m'a même demandé, est-ce que Movember, c'est une mode qui commence un peu à s'essouffler? Et juste la formulation de la question me fait un peu réagir parce que Movember, ce n'est pas une mode. Oui, effectivement, il y a eu un peu moins d'inscriptions l'an passé. C'est sûr qu'en 2007, quand Movember Canada a commencé...
Mais c'est une façon, je pense... Je vous arrête ici, Patrice Lavoie, parce que le temps file, il nous reste quelques secondes, mais je suis d'accord avec vous. Je pense que Movember, c'est un mouvement qui a sa raison d'être et qui est extrêmement important pour la santé des hommes. Je vous remercie de vous impliquer, Patrice Lavoie. Je vous rappelle, vous êtes ambassadeur de Movember. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'était très courageux. Merci.
Merci pour l'invitation. Au plaisir.
Au revoir. Merci, Jean-Sébastien. Nous, on se donne rendez-vous demain. Portez-vous bien. Bye-bye.